on se réunissait en fait en groupe. Hein, donc à certains moments, je pense que c'était des gens déterminés de la société. À d'autres moments, on tenait un peu qu'ils voulaient bien et on les chassait. Donc ça posait aussi des problèmes qui d'ailleurs sont les mêmes que ceux qui se posent aujourd'hui dans la politique des étrangers. J'ai cité ça dans le livre. Lorsqu'il y a eu l'année dernière, lorsque les Français ont décidé de chasser les Roms, dans les semaines qui ont suivi, les Suisses ont décidé d'être aussi beaucoup plus fermes. Les chasses aux vagabonds se passent la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Neuchâtel décide de chasser ses vagabonds, tout à coup, Fribourg s'y met aussi. Enfin, il y a même une concertation, parce qu'évidemment, si un canton les chasse, ils arrivent dans l'autre, alors tout à coup, tout le monde se met d'accord, et puis on les chasse vraiment... Et puis bon, mais là, je pense qu'il y a tout un domaine encore à explorer, que je n'ai pas trouvé, ce serait de voir effectivement si les conséquences étaient souvent aussi douloureuses qu'elles sont décrites dans les ordonnances, c'est-à-dire galères, etc. Donc je pense qu'il y a certains que certains sont partis aux galères. Mais je n'ai pas de documents qui décrivent. Siècle. Ils ne sont pas que les fermiers étaient les gens les plus apeurés par les vagabonds, c'est plutôt les cités, les villes qui lançaient ces répressions. Parce que, le livre vient de sortir de Pierre Cremon hein, sur le trimard, il montre très bien, mais ça c'est au XXe siècle, fin 19e, début 20e, que les fermiers accueillaient ces vagabonds qui avaient même commencé à dessiner sur les murs des signes hein, pour dire ici le vin est bon, enfin, la cuisine est bonne, etc. Donc il y avait toute une tradition de l'accueil dans les campagnes. Et ça, je n'ai pas été bien loin là-dedans. Mais je crois d'après aussi des textes littéraires, par exemple L'Or du Pauvre de Péry, j'ai l'impression, et je ne l'ai pas beaucoup développé, que les campagnes ont été toujours plus tolérantes. En tout cas, ce qui est un fait, c'est que la politique justement systématique, un tri du mauvais, du bon et du mauvais pauvre, se met en place beaucoup plus tard dans les campagnes. Aussi, je pense, parce qu'il y a moins de pression sur les ressources alimentaires.
Vous avez bien fait la distinction entre les bons pauvres et les mauvais pauvres. Et pour faire une si mauvaise distinction, il fallait être de l'autre côté de la barrière, donc il fallait être riche. Et pour faire une mauvaise distinction comme ça, c'était des mauvais riches. Parce qu'il y avait des bons riches.
Excellente question. Je pense que oui, un aspect qui n'apparaît pas du tout dans mon livre, et je le dis quelque part dans l'introduction déjà, c'est qu'effectivement, il y a plein d'exceptions. Je suis persuadé qu'il y a plein de fribourgeois qui ont été vraiment charitables. Il y a plein de chrétiens et d'institutions religieuses qui ont vraiment voulu faire du travail des bons riches, puisqu'ils étaient aussi riches ces institutions. Malheureusement, qu'il y ait des bons riches, si les lois sont extrêmement mauvaises, ça fait tout à fait clairement une belle jambe aux pauvres. Tant que la loi est restrictive, il peut bien avoir des personnes bonnes. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas dans une situation très différente. On a des lois sociales qui sont tout à fait élaborées, mais si on laisse un petit peu l'UDC se développer et les lutter, on aura quelques problèmes. Mais oui, il y avait des bons riches, certainement. Il y a un peu partout. Je pense, en tout cas, à partir de 1935, comme ça, on les trouvait certainement un peu à l'asile de nuit, hein, donc à Fuyard actuel. On les trouvait dans les grottes, certainement. C'est un chapitre aussi dont je n'ai pas parlé, mais les gens vivaient dans des grottes. Encore récemment, quelqu'un vivait dans une grotte de la Basse-Ville. Hein, il est mort, je crois, il y a quelque temps. Dans les cafés, évidemment. J'aurais pu écrire aussi toute l'histoire des auberges, parce que, encore aujourd'hui, donc, ce sont des gens des cafés. Et dans les campagnes, certainement. Donc, la série de Pierre Cremon, qui est venu un livre, montre assez bien les itinéraires de ces gens sur le trimard. Lui, il prend quelques-uns des grands, hein, donc de la région Luérienne, surtout Coudure, des gens comme ça qui étaient vraiment des figures charismatiques. Mais je pense d'ailleurs que ces figures charismatiques ne sont pas tout à fait significatives. C'est-à-dire que ce sont effectivement des sans-abri, mais qui ont une forme d'intégration sociale un peu particulière, mais ils sont bienvenus dans certains cafés, on les accueille quand même assez bien, parce qu'ils ont toujours quelque chose. Coup de génie, en coup dur. En coup dur, ça s'appelait coup dur, parce que avant chaque hiver, il faisait un coup dur pour se faire mettre en prison, passer l'hiver au chaud. Donc à la fin, il avait besoin de faire le coup dur, on le mettait en prison. Et ça, je pense que ces figures de vagabondage, au fond, sont certainement pas des... C'est la pointe de l'iceberg. Bon. Mais oui, ben, la basse ville, certainement, les cafés. Bon, certains refusaient aussi d'aller carrément. Bon, il y a aussi une catégorie qui refuse toute forme, encore aujourd'hui, qui refuse d'aller à la tuile et qui veut vraiment vivre dans les campagnes. Mais je pense quand même que c'est un peu ça, les alentours de l'asile de nuit. Mais ils sont vagabonds, justement, donc c'est assez difficile de les suivre. Ça sert. Ouais, parce que, donc, c'est toute la partie dont je n'ai pas parlé, mais je pense qu'à partir de 1930, en particulier avec les assurances sociales, la donne change complètement. Et par une explication qui me paraît assez aussi évidente, c'est que les assurances sociales permettent qu'une précarité temporaire ne se transforme pas en précarité à vie. Mais à partir du moment où ces choses se sont mises en place, il y a aussi eu une distinction, c'est-à-dire que l'ensemble des pauvres qui pouvaient se retrouver justement un peu dans les mêmes institutions ou qui n'avaient pas d'institution, a pu être dispatché vers les différentes formes, hein, donc assurance chômage, assurance invalidité, etc. Je pense que ça a eu des conséquences vraiment sur... Par contre, je crois que si on peut faire des catégories, hein, de vagabonds, il y a vraiment, depuis le Moyen-Âge, la catégorie des vagabonds qui sont devenus par l'extrême pauvreté. Il y a d'autres problèmes qu'on voit très bien. Donc il y a par exemple le problème des militaires qui n'arrivent pas à se réintégrer, puis il y a le problème des vagabonds étrangers. Donc si on a très bien réussi à partir de 1930... Très bien réussi. Oui, je pense assez bien réussi à régler ce problème des vagabonds qu'ils devenaient par la pauvreté. On n'est pas devenu pour autant plus tolérant avec les vagabonds étrangers. Et j'ai constaté, je l'ai écrit dans ma conclusion, une chose absolument effrayante, c'est que jusqu'en 1972, la Confédération a payé cette institution des enfants de la Grand Route qui a vraiment enlevé à des familles tziganes leurs enfants pour les normaliser, pour les rendre bien suisses, etc. Mais je crois vraiment que les assurances sociales sont un moment, et je le dis dans mon livre, un moment très important de cette histoire des sans-abri, parce qu'on en produit moins à partir du moment où on veut bien comprendre. Et je crois que ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on comprend le chômage autour de 1930. Avant, on n'arrive pas à analyser justement la pauvreté de manière économique. C'est toujours une tare ou quelque chose comme ça. Mais à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment quand même une modification qui conduit d'ailleurs aujourd'hui à l'existence d'une institution comme la tuile, qui a fait quand même... quelques années avant d'être vraiment bien installé, d'ailleurs, au point de vue de statut, financement et statut. Donc pour que la vie soit assurée de la tuile, il a fallu 7 ans quand même. Et là, j'avais lu quelques arguments au début de la tuile, jusqu'au conseil communal fribourgeois qui ne voulait pas soutenir cette institution, en arguant, c'est aussi rapporté par la presse, que... les contrôler un peu plus loin, en arguant qu'on ne voulait pas que la tuile devienne un lieu pour les noctambules qui sortaient de frissons. Alors qu'il est évident que quand ça a été créé en 1992, il y avait déjà un vrai problème, il y avait vraiment des sans-abri et des jeunes. Oui, parce qu'une chose frappante, c'est que la moyenne d'âge des gens qui fréquentent la tuile, elle est 34 ans. Donc c'est pas tout à fait l'image, hein, du vieux barbu, c'est 34 ans. Ça aussi, c'est une chose qui m'a frappé au début. C'est assez jeune comme moyen d'âge. Non, appliché certainement pas. Par contre, une question qu'on peut se poser, je pense, on l'utilise comme cliché quand on stigmatise justement en disant voilà, c'est l'alcoolisme qui rend pauvre, mais on peut peut-être essayer de se poser la question à l'envers et se demander si ce n'est pas la pauvreté qui rend alcoolique. Mais non, non, alors là, je crois que la population de la tuile, de nombreuses personnes ont des problèmes de drogue, effectivement, ont des problèmes d'alcool. Et on parfois des choses. Un peu plus rare. À propos de ces termes vagabond, etc., je pense que le terme vagabond n'est pas du tout approprié. J'ai bien utilisé comme ça pour l'époque contemporaine, mais je pense qu'il n'est pas du tout approprié aujourd'hui. Il faut parler de son domicile fixe ou de sans-abri. Vagabond est devenu un peu romantique, un loup qui part, etc., qui vient, qui s'installe tranquillement. Donc, ça n'a pas été tout à fait le sujet de ce livre, ni l'intérêt de la tuile. C'est vraiment pour aujourd'hui sans-abri. Mais vagabond est un terme générique qui permettait de contenir les autres et qui historiquement a été utilisé très longtemps. Très long.
Le journaliste et l'historien qui a planché pendant plusieurs mois sur ce sujet. Si je fais un doctorat sur la population des îles d'Auvergne, je ne rencontre pas forcément des angoisses médiatiques ou des représentations personnelles. J'ai passé plusieurs mois à investiguer au niveau, j'allais dire, humain, politique et historique, cette problématique. Comment dire encore ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça change ?
J'en ressors plus à gauche qu'avant. Non, j'en ressors un peu confirmé. Alors, première chose, je ne me sens pas tout à fait près de cette falaise qui me conduirait à être sans abri. Ça, c'est une chose que je n'ai pas tellement ressentie. Par contre, je pense que c'était un moyen d'aborder justement l'histoire sociale de ce pays, de cette ville, à travers un angle qui était à l'extrême marge des sans-abri, et qui me convainc vraiment. J'entends souvent, je parlais avant de la partie politique, on entend ce discours de plus en plus souvent aujourd'hui, qu'il faut arrêter d'aider les pauvres, mais il faut qu'ils se responsabilisent. Alors, en analysant un peu en détail leur parcours, parce que ce qui est intéressant, c'est de suivre un peu des parcours de vie, comme ça, il me semble tout à fait clair que, et Michel Mollat d'ailleurs le définit déjà pour le Moyen-Âge, certaines personnes ne peuvent pas s'en sortir sans l'aide d'autrui. Ça, c'est une évidence. Et pourquoi? Parce que je ne crois pas tellement, et encore moins à la fin de ce livre, à l'égalité des chances dont on veut nous convaincre aujourd'hui qu'il y a égalité des chances, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit dans certains des parcours des gens qui sont à la tuile, ou bien dans celui que j'ai raconté des enfants d'Echli, par exemple, qu'il y a des vies qui sont terriblement difficiles depuis le début, et qui ne permettent pas de se responsabiliser, selon ce mot « gadget », et qui font qu'on ne peut pas réussir sa vie aussi facilement. D'ailleurs, on utilise l'expression « s'en sortir ». Quand quelqu'un part dans une situation très difficile et réussit, il s'en sort, donc il sort bien de quelque chose. Alors, ça m'a convaincu simplement dans mes convictions politiques.
Voilà. Et humaines. La part, c'est les points de suspension sur un avenir. Tout se modifie, se change et se construit. Merci à vous d'avoir participé à cette
merci beaucoup.
Première rencontre de la Rotonde pour le semestre d'été. Simplement dans le 29, le mardi 29, c'est Philippe Deveille qui présentera un travail, un mémoire de licence, d'abord, qui a eu la chance d'être édité. C'est l'histoire de son parent, et ça s'appelle Les intentions secrètes d'un homme de lettres, et ce sera ici à 18h30. Bonne soirée, c'est au plaisir de vous rencontrer pour d'autres rencontres de la Rotonde.
Merci à toi.
C'est un nouvel ordre, qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. Il y a beaucoup d'iconographie pour ceux qui n'ont pas lu, qui permet d'aborder une sensibilité de ces livres. Bonne soirée.